J'aimerais continuer cette exploration de ce chemin intérieur avec le comment je suis là. On pourrait dire que la méditation consiste en une partie totalement objective. Je vois et je nomme l'expérience. Il y a un corps, le corps comme un corps. Il y a des émotions, les émotions comme des émotions. Il y a des pensées, il y a une conscience. Le fait de nommer avec objectivité n'est pas suffisant pour que le lâcher-prise s'installe. Il y a cette qualité de bienveillance, d'acceptation, d'ouverture, cette qualité de cœur qui est chaleureuse. On pourrait dire qu'il faut cette lumière de la pleine conscience et cette chaleur d'une pleine conscience qui est unificatrice. Nous aimons être dans quelque chose qui entoure, qui unifie. Et c'est ça qui permet le lâcher prise. Et le Bouddha a parlé de quatre qualités du cœur qui permettent de... qui sont un antidote à la réactivité. Et la première, c'est l'empathie. Lorsque je nomme l'expérience ici et maintenant, c'est que j'ai la bonne volonté de voir. C'est déjà une forme d'empathie. C'est extrêmement différent de dire « Ah ben, juste maintenant, je vois, il y a de la colère. » Ou bien de dire « Je suis en colère, c'est parce que. » La qualité d'empathie, lorsque je m'approprie l'expérience, est totalement absente. Mais lorsque je peux voir « Ah, il y a la colère », je, d'une certaine manière, j'entoure l'expérience, je la reconnais, je m'ouvre. Vous sentez la différence ? Donc l'empathie est directement liée à l'ouverture de conscience, à l'expérience ici et maintenant. Donc quand l'expérience n'est pas trop douloureuse, par exemple dans la marche, je peux sentir cette qualité d'intérêt ou d'empathie. Je sens vraiment mon pied quand il se lève, quand il s'avance, quand il se pose. Ou le corps juste maintenant. Je peux sentir cette qualité qui est là. Ok. Je peux même dire mon petit corps. Et quand les expériences émotionnelles ne sont pas trop lourdes, ou trop défiante. Mais lorsque ça devient difficile, il y a un autre aspect de l'empathie qui est la compassion. Et la compassion, étymologiquement, c'est avec la souffrance, être avec la souffrance. Et ça, c'est une attitude qui remplace l'empathie. C'est difficile d'être dans la bienveillance quand l'expérience nous gêne profondément. Par contre, je peux me dire, alors je suis juste sensible à ma peine. Je reste sensible à cette expérience douloureuse que je peux sentir dans le corps, que je peux sentir dans cette forme de limite ou de souffrance ou de réactivité. Et la réactivité, qu'elle soit fuite ou agression, c'est de la réactivité. Que je me fasse toute petite ou que j'explose, la souffrance est là. Et vous pouvez faire l'expérience à quel point ça soulage. Même dans l'assise, quand ça devient douloureux et difficile, plutôt que de le prendre personnellement, de chercher comment bouger, comment faire autrement, comment aller ici, là, d'avoir le doute qui vient. Je suis juste sensible à ma peine. Et je reste en silence avec elle. Et qu'est-ce qui se passe? Ça n'enlève pas la peine, mais ça enlève grandement l'aveuglement qui l'accompagne. Et tout ce qui en moi se met en porte-à-faux, ou en déni, ou en jugement, ou en culpabilité. Savoir reconnaître avec bienveillance l'expérience, c'est le chemin. Et lorsque le fruit commence à germer, alors quand l'expérience est douloureuse, je continue à la reconnaître. Et là, je viens avec cette qualité d'ouverture du cœur. Le troisième aspect dont le Bouddha a parlé, c'est la joie. Et particulièrement la joie pour ce qui va bien pour l'autre. Mais pour pouvoir ne pas se sentir petit quand tous les avantages sont chez autrui et pas chez moi, c'est important d'avoir un peu reconnu avec gratitude ce qui va bien chez soi. Quelquefois nous sommes très durs avec nous-mêmes. Et depuis le matin on commence, hein. Ah, ça y est, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, fais ci, fais ça. Il y a cette espèce de gendarme intérieur qui mène notre vie d'une manière exigeante et pas très sympathique toujours. Et de pouvoir reconnaître la gratitude, avec gratitude la joie, tout ce que... En fait, il y a énormément de choses que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, installe avec beaucoup de compétences, même si c'est des petites choses, mais est-ce que je peux les reconnaître? C'est incroyable parce que dans une journée, il y a peut-être, je ne sais pas, 10% de... Dans une journée où ça va mal, il y a quand même 10% ou plus, peut-être 20% de choses qui vont bien. Chaque fois que je mange, imaginez que vous ne pouvez plus manger, ben vous connaîtrez votre souffrance. Mais chaque fois que je mange, waouh, je mange. Chaque fois que je vois quelque chose et qu'on n'est pas dans un pays en guerre, je peux voir le printemps, waouh. Objectivement, il y a en tout cas 20% qui va bien. Il y a certainement 50 à 60% qui est neutre. Et puis, il y a 10, 20, peut-être 30% qui ne va pas. Et qu'est-ce que je saisis? Je saisis ce qui ne va pas. On m'a dit pendant peut-être 5 minutes, juste avant de partir, mon compagnon, mon fils, le voisin, mon boss m'a dit pendant 5 minutes une parole qui me gêne. Et qu'est-ce que je garde avec moi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors qu'en fait tout va bien. Donc apprendre à voir ce qui va bien, c'est quelque chose de très important. La joie, c'est intéressant, quelquefois quand il y a beaucoup de joie qui vient, il y a comme quelque chose qui nous dit, mais attends, est-ce que j'en suis vraiment, est-ce que je peux vraiment me laisser le recevoir? Quelquefois on est même un peu dans le doute d'être suffisamment valable pour expérimenter quelque chose de puissamment bienfaisant. En tout cas, c'était mon expérience, quelquefois. La joie est une discipline. Il faut se souvenir de conscientiser tout ce qui va bien. Pas seulement chez moi, mais chez l'autre, de le dire à l'autre. Même si on a un peu un problème avec quelqu'un, Qu'est-ce que ça fait si je lui dis la chose qu'en fait, réellement, sans mentir, je trouve chouette chez lui ou elle? Ça change tout, hein. Plutôt que de rester focalisé sur ce qui m'a touché et qui reste, ou dont les scories sont toujours là. Cultiver la joie, c'est le lâcher prise de la jalousie. C'est se rendre compte qu'il y a suffisamment de joie sur cette terre pour tout le monde. C'est pas parce que l'autre a tellement de chance qu'il n'y en a plus pour moi. Et puis le dernier aspect, c'est l'équanimité, c'est cette sérénité intérieure qui se travaille beaucoup dans l'assise quand je commence à arrêter de toujours croire que je suis l'expérience. Quelquefois c'est agréable, quelquefois c'est désagréable, et ce sera toujours comme ça. C'est pas parce que je pratique la méditation que tout à coup je vais toujours avoir une expérience agréable. La libération intérieure implique que l'impact de cette impermanence n'est plus aussi puissant sur le corps et l'esprit. Et en fait, ce qu'on appelle la libération, ça n'est pas l'expérience agréable toujours, mais c'est cette compétence de pouvoir accueillir l'ombre et la lumière avec la même gratitude finalement. Parce que lorsque c'est l'ombre qui émerge et que je sais qu'en faire, que j'ai cette confiance que si elle est là, c'est que je suis bénie. C'est pas qu'il y a une erreur. Et qu'elle vient juste me titiller pour me dire « Apprends encore un tout petit peu mieux comment te lier à moi sans que je t'envahisse, sans que tu me prennes pour autre chose que ce que je suis. » Juste une expérience douloureuse ici et maintenant. Et alors nous nous fortifions intérieurement et l'équanimité s'installe. Cette discipline de la joie, elle est liée à l'exercice de la méditation. Et c'est vrai que ça n'est pas un exercice facile. Il est simple. Vous pouvez répéter les phrases de métta une fois, pas de problème, tout le monde peut le faire. Mais quand je les répète la deuxième fois, ça va peut-être encore. Puis la troisième fois, je commence à m'ennuyer et puis les obstacles arrivent. C'est comme ça. Parce que l'entraînement, c'est un entraînement de la conscience. Et pour entraîner la conscience, nous entraînons en même temps la compétence d'être là, mais aussi le comment je suis là. Donc c'est clair que si la conscience veut bien être là quand c'est intéressant, mais que sitôt que ça devient inintéressant, elle se tire, c'est pas la conscience pure. C'est une conscience qui est joliment colorée par le moi, avec ses besoins et ses préférences. Donc la pleine conscience, c'est une pleine conscience gratuite. Elle n'est pas pleinement consciente quand ça me va, et puis qu'elle se tire quand ça ne me va plus. Donc l'intérêt de partir et de revenir. La conscience part et je reviens. La conscience part et je reviens. Est-ce que je peux le faire en sachant exactement ce que je fais? J'entraîne la pleine conscience. C'est pas que je devrais toujours être là. Ça ne sert à rien de rajouter « Oh là là, je devrais toujours être là. Ah mince, voilà, j'étais pas là. J'étais pas là, ok, j'étais pas là. Je ne vais pas y être, hein, parce que je me dis « Oh zut, j'étais pas là. Je ne vais pas plus y être. » Par contre, me dire « Ah oui, j'y étais pas, mais maintenant j'y suis. » Ça, c'est cette discipline de la joie. Et je me réjouis, juste maintenant j'y suis. Je sens que je suis dans le chemin. Un jour, vous serez peut-être tenté de conclure que la méditation convient probablement à certains, mais qu'elle est totalement inadaptée pour vous. Dans mon cas, la méditation a commencé par être douloureuse et ennuyeuse, au-delà de toute expression. Il est presque certain que vous trouverez des arguments extrêmement convaincants pour abandonner avant même d'avoir commencé. Ne les écoutez pas. Cette discipline de la joie, c'est ça. Je refais encore et encore. Et tout d'un coup, je me rends compte, ah ben ouais, il y a quelque chose qui a changé. Mais c'est pas parce que j'ai absolument voulu. C'est parce que j'ai cultivé encore et encore. La réactivité, elle est normale. C'est normal que le corps et l'esprit réagissent à l'expérience douloureuse, dans le sens de ne pas la vouloir, et réagissent à l'expérience bénéfique ou agréable, dans le sens de vouloir la tirer, la garder, se l'approprier. C'est tout à fait normal. Mais on pourrait dire que c'est une forme de non-amour. C'est le moi qui se met au centre. L'esprit n'est pas spacieux, il n'est pas disponible. Ça n'est pas vraiment, ou ça n'est pas qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment est beaucoup plus ample et puissant. Et la pleine conscience, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Mais naturel ne veut pas dire normal. C'est ma nature profonde de pouvoir répondre à la haine, non pas par la haine. Et j'apprends à ne pas répondre à la haine par la haine en recevant l'expérience douloureuse et en lâchant. Si je réagis à l'expérience douloureuse, je suis vraiment dans cette réponse de la haine par la haine. Il y a réactivité. Et c'est sûr que si je ne fais pas ce travail à l'intérieur de moi-même, quand ça viendra de l'extérieur, ben en tout cas je ne peux rien assurer. Peut-être que la grâce sera là, on ne sait pas. Mais je ne peux rien assurer. De toute manière, nous ne pouvons rien assurer. Mais quand même, lorsque c'est travaillé à l'intérieur, c'est plus facile énergétiquement de garder sa stabilité, son ancrage, de laisser les choses se faire à l'extérieur et de ne pas entrer dans cette interactivité de projection, de reprojection et de projection encore. C'est la polémique. La polémique est terrible. Nous croyons pouvoir tout solutionner parce que nous cherchons le pourquoi du comment, blablabla. Et ça mène nulle part. En tout cas, dans mon expérience. On peut l'employer un peu pour faire le clair. Mais après, c'est énergétiquement que les choses se posent, pour autant qu'il y ait ces qualités de cœur, d'empathie, de compassion, de reconnaissance ou de gratitude et d'équanimité. C'est dans le Dhammapada qu'il est dit « Celui qui répond à la haine par la haine » est pire que celui qui a haï le premier. Ne répond pas à la haine par la haine et gagne une bataille difficile à gagner. Celui qui reconnaît la haine d'un autre et qui en pleine conscience maintient la paix dans son esprit n'encourage pas seulement sa propre mission mais également celle de l'autre. Si tu ne gagnes pas cette bataille difficile à gagner, tu fais à toi-même le même mal que ton adversaire. Tu es comme du bois mort. D'une certaine manière, dans l'exercice de la méditation avec les obstacles, C'est exactement ça que nous apprenons. Lorsqu'il y a le double message, l'aversion arrive et j'ai de l'aversion pour l'aversion. C'est souvent comme ça, vous avez remarqué? Où la peur arrive et j'ai de la peur pour ma peur. Waouh! Ah, surtout pas ça, quelle horreur! Le double message est essentiel à reconnaître et à travailler. C'est ça qui installe la confiance dans l'instant tel qu'il est. Vipassana, voir les choses telles qu'elles sont, c'est cette confiance. Si c'est là, c'est pas pour rien. Ça fait partie d'un processus que je peux reconnaître et que je peux employer pour grandir. Ce qui est naturel, c'est la non-séparation. C'est pour ça que nous aimons tellement quand les choses sont en harmonie. Surtout au niveau interrelationnel. Et quand les choses sont en disharmonie, ça nous fait souffrir profondément. Parce que nous sentons bien, c'est pas ça. Et la seule réponse, ce sont ces qualités de cœur, c'est l'amour. C'est ça qui fait que j'arrête de confondre l'autre avec ses actes. L'autre, c'est l'autre. C'est une personne digne de respect. Ses actes, suivant lesquels, c'est important d'y mettre une limite, de dire clairement non. Mais de ne jamais confondre les actes de la personne avec la personne elle-même. Elle est toujours digne de respect. De même que je suis toujours digne de respect. J'ai le droit de me tromper. Et alors je viens avec la compassion, le pardon pour moi-même, pour l'autre. Comme ça, il y a ce respect pour la profondeur du qui suis-je. Je ne sais pas où j'avais trouvé cette petite parole. Aimer, c'est servir sans s'imposer, servir sans vouloir convertir. Servir sans attendre de retour. Les trois sont identiques. C'est tout accueillir avec la même force, la même ferveur, ne pas tenir à ses préférences. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir, hein? Vous entendez bien? Nous en avons des préférences, mais je n'y tiens pas. C'est très différent si je dis à l'autre, ben, pour moi c'est comme ça. Mais que je laisse l'autre avoir son propre comme ça. Que si je dis pour moi c'est comme ça, j'aimerais bien que pour toi ce soit pareil. Mais nous faisons très souvent ça. C'est Nelson Mandela qui dit dans sa biographie, il y a une très très belle biographie, autobiographie de Nelson Mandela. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. C'est tellement important de se rappeler de ça. Quand il y a un conflit avec quelqu'un et que la confusion vient tout embrouiller ce souvenir que la personne est digne de respect. Et que si l'aveuglement l'envahit et qu'elle ne le voit pas, je peux avec bonté lui communiquer ce que moi je sens, mais je ne peux pas faire le travail à sa place. Souvent, nous avons tellement envie de faire pour l'autre que nous faisons tout faux. Parce que nous n'avons pas confiance dans le propre chemin de la personne, surtout ceux qui nous sont proches. Et si je me donne le droit de me tromper, je vais donner le droit de se tromper à l'autre. C'est dans Khalil Gibran, c'est tellement beau quand il parle des enfants, en disant vous pouvez leur donner votre amour, mais vous ne pouvez pas leur donner vos pensées. Nous n'avons pas à donner nos pensées à l'autre. Nous pouvons lui nommer nos opinions, mais en sachant c'est une opinion, c'est subjectif, forcément que tu en as d'autres. Comment est-ce que nous pouvons ensemble cheminer avec ces différences ? Donc, le travail est à faire toujours ici et maintenant, toujours en nous-mêmes, même si nous pouvons nous dire à l'autre, mais c'est là que ça se transforme. Et avoir l'espoir que ça se transforme là à l'extérieur pour que ça aille mieux en moi, on peut espérer longtemps. On aura toujours quelqu'un qui va nous mettre au défi pour que nous voyions, mais ma doudounette, c'est là. C'est pas ailleurs. Alors, soit nous sommes dans ce qui est normal, il n'y a pas à culpabiliser, c'est normal d'être dans l'instinct qui veut, qui ne veut pas, qui exige, qui... Ok, c'est normal, mais c'est souffrance, c'est douloureux. Ou bien nous essayons de venir dans ce qui est naturel, dans ce qui est spacieux, dans ce qui est accueillant, dans ce qui est empathique, compassionné, attentif, reconnaissant et tout accueillant. Nous pouvons prendre des ressources, nous pouvons nous ressourcer dans la nature. Dans la nature, nous pouvons bien sentir ces qualités d'équanimité. La nature nous offre presque automatiquement une qualité d'ouverture et d'équanimité. Je me souviens d'un père franciscain qui était tout proche de nous quand mes enfants étaient jeunes et puis qui disait, moi, quand ça va plus, ce que je fais, c'est que je vais dans la forêt. Je me laisse remplir par le silence et par la puissance de la nature. Il y a un espace unifié dans la nature qui est profondément nourrissant. Employons-le. Il y a la pratique de la méditation, mais il y a aussi tellement d'autres manières de nous ressourcer. Et ce qui est important, c'est de le faire avec la bonne attitude. Là, je suis dans la forêt, ou dans le parc, ou sous l'arbre, et je me laisse nourrir de ce qui est spacieux, silencieux et naturel. Une jolie parole. Au nom de l'aube et des îles du matin, et de la façon dont apparaît la lune et la nuit, après qu'elles se soient cachées, je promets que je ne vais pas me déshonorer par la haine, mais offrir humblement mon âme comme gardienne de la nature, guérisseuse de misère, messagère d'émerveillement et architecte de paix. Nous pouvons prendre une intention. Le matin, je me réveille, j'ai une intention. Ça ne veut pas dire que je vais forcément pouvoir tout faire bien. Hein? La vie est imparfaite. Mais j'ai une intention. C'est le chemin. Je vois le but là. Et puis après, je marche. Quelquefois, il y a le beau temps et puis quelquefois la tempête.